Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai plusieurs maîtres dans la salle. Je suis très content de voir Marie-Hélène, Jacques Lansac et d'autres. Je suis vraiment content d'être parmi vous, d'autant plus que je reviens un peu en France, donc ça me fait plaisir de reprendre contact avec toute la dynamique française. Et on m'a demandé, c'est un honneur, de parler, je vais essayer de ne pas être trop bavard, de la situation internationale et non seulement de faire le point sur là où on est, mais je crois que le président Rosenthal vient de nous dire le principal, donc je vais essayer de ne pas répéter, et de voir un petit peu quelles sont les dynamiques qui sont en route. Et évidemment, GSF fait partie de ces dynamiques avec d'autres organisations. Alors, le premier point que je voulais faire, c'est que quand on fait de la gynéco, quand on fait de l'obstétrique au niveau mondial, évidemment, au niveau mondial ou au niveau national, un des premiers points, c'est de savoir dans quel contexte de population on se situe. Et je crois qu'il faut vraiment regarder l'évolution des populations pour comprendre quel est le rôle des politiques nationales en matière de santé maternelle, en matière de planification familiale, en matière de santé maternelle et néonatale. Nous sommes dans un monde où les différences en termes de fécondité sont en train plutôt de s'aggraver que de se réduire, parce qu'énormément de pays font des progrès en réduisant leur fécondité, alors que d'autres, et vous verrez que ce sont comme par hasard évidemment ceux pour lesquels la mortalité maternelle, le ratio de mortalité maternelle reste très élevé, ont encore des taux de fécondité extrêmement forts. Et un des points essentiels sur lequel des organisations internationales, dont le Fonds des Nations Unies pour la population, pour lequel j'ai travaillé assez longtemps, travaille avec les gouvernements pour convaincre et expliquer que le but n'est pas de forcer à des réductions de population, mais bien plutôt à donner le droit à chacune des femmes de ce pays, à chacun des hommes et des femmes de ces pays, l'accès à la décision sur la façon dont ils veulent bâtir leur famille. Et évidemment, pour des raisons qui sont économiques, mais peut-être surtout culturelles, on est encore très loin de cet objectif dans toute une série de pays. Mais je voulais commencer par cela parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais qui est absolument fondamental. Le président a déjà dit que 800 femmes enceintes mouraient par jour dans le monde. Il y a eu un progrès. Cette diapositive a plusieurs points sur les adolescentes. Et un des points très importants, c'est que nous sommes face à une explosion de la population d'adolescentes. Beaucoup de pays africains, et là aussi les pays qui ont des très fortes mortalités maternelles, ont des proportions de jeunes et adolescents qui atteignent ou dépassent 50% de la population. Quand on sait que ce sont des pays pauvres avec des difficultés socio-économiques extrêmement importantes, ces pays ne sont pas en mesure d'offrir les soins que nécessitent ces jeunes, en santé de la reproduction ou en santé tout court, les emplois, évidemment, l'activité économique. Et puis, pour les femmes enceintes, c'est particulièrement dramatique parce que ce moment de la vie, on est particulièrement vulnérable, les systèmes ne sont pas en place pour pouvoir vous protéger. Donc la question des adolescents, la question des populations est vraiment au cœur et on pourra y revenir si vous le voulez. Je voulais commencer par cela. Le président nous a déjà dit ce qu'il en était des objectifs, dont vous les connaissez. Je rappelle quand même que l'objectif 5, il n'est pas isolé et qu'il peut être envisagé avec d'autres objectifs. On le sait très bien, la mortalité maternelle dépend largement du développement socio-économique. Et d'ailleurs, vous le savez, l'index de développement humain que fournit l'UNDP chaque année, ou régulièrement en tout cas, utilise le ratio de mortalité maternelle parce que c'est un bon indicateur, ou en tout cas un proxy pour le développement des systèmes de santé. Un pays qui n'a pas de système de santé fonctionnel ne peut pas réduire sa mortalité maternelle. C'est un défi pour nous parce que ce n'est pas en construisant un dispensaire par-ci, par-là qu'on va réduire le problème. C'est beaucoup plus compliqué et c'est de ça dont on va essayer de parler. Donc simplement pour dire que la question du genre, la question des systèmes de santé, du développement économique, de la pauvreté, de l'éducation, et l'éducation des filles en particulier, sont évidemment des éléments qui sont extrêmement importants lorsqu'on veut aborder la question de la mortalité maternelle. Alors, évidemment, il y a eu des progrès. Et c'est aussi en grande partie grâce aux OMD qu'on peut mesurer les progrès, parce que ça a permis même si le démarrage a été très très long, on a perdu beaucoup de temps parce que ces OMD sont venus d'en haut, ont été entre guillemets imposés, ils ont été décidés par, je ne sais pas d'ailleurs très très bien comment ça a été fait au sein des Nations Unies. Ils ont été imposés au monde et imposés aux pays. Et les gouvernements, pour beaucoup, ont mis beaucoup de temps à se mettre en route pour travailler sur l'atteinte des OMD. À tel point qu'en 2010, Ban Ki-moon a lancé ce qu'on a appelé en anglais « Every Woman, Every Child » pour toutes les femmes et pour tous les enfants, pour essayer de redynamiser et pour essayer de mettre les pays devant leurs responsabilités et d'aider les gouvernements à prendre des décisions. Et effectivement, ça a relativement bien marché. Plus d'une centaine de pays ont pris des engagements fermes sur la réduction de la mortalité maternelle, sur le développement des systèmes de santé, sur la formation des sages-femmes en particulier, etc., etc. Mais il avait fallu faire cette poussée pour que les choses avancent. Mais il faut reconnaître que les objectifs du millénaire pour le développement représentent la première tentative de mettre des objectifs de santé en haut de l'agenda du monde. Et donc, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important qui a, je crois, été particulièrement utile pour la santé maternelle parce que, comme vous le savez, la santé maternelle était toujours traitée de manière extrêmement marginale et les investissements en santé maternelle restent de toute façon bien limités. Ce qui s'explique dans un monde où le VIH est encore une question extrêmement importante, où les maladies infectieuses, non transmissibles, sont en train de prendre une place aussi de plus en plus importante. Il faut se battre pour que la santé, la reproduction et la santé maternelle, et ça a été une bataille pour la définition des objectifs du développement durable, eh bien, il n'a pas été évident au départ que la santé de la reproduction soit incluse dans les objectifs. On le verra, cet agenda qui n'est pas terminé des OMD a été finalement totalement pris en compte. Pendant que je parle, je pense que vous avez eu le temps de regarder, il y a un certain nombre de pays francophones que j'ai mis en foncé pour qu'on les voit bien, parce que je pense que pour GSF, pour nous, le monde francophone est une réalité et c'est un monde dans lequel nous avons des responsabilités un peu plus spéciales. Et les pays francophones ne vont pas bien. Les pays africains francophones ne sont certainement pas parmi les pays, à part le Rwanda, comme il a été dit, c'est un des 9 pays qui a atteint les objectifs du développement pour la santé maternelle. Mais à part ce pays, pas seulement parce qu'il est petit et on pourra revenir là-dessus, mais parce que la volonté politique était très très forte et que le président a décidé qu'il fallait que ça change et que quand au Rwanda le président décide quelque chose, eh bien cela se fait en général. Ce qui n'est pas le cas évidemment dans beaucoup d'autres pays où les politiques restent lettre morte et où les choses n'avancent pas beaucoup. Alors voilà, les cartes que vous connaissez bien, malheureusement elles n'évoluent pas beaucoup au cours du temps, ainsi que les courbes. Vous verrez ici que évidemment l'Asie du Sud-Est a fait des progrès les plus rapides et les plus importants en proportion. L'Afrique fait des progrès, c'est elle en jaune en haut, mais vous voyez qu'on reste à des taux de mortalité maternelle encore très très élevés. Et puis, évidemment, comme on le sait, la mortalité maternelle est un des indicateurs de santé mondiaux qui montre le plus d'inégalités. Et donc, vous voyez cette différence énorme entre les taux de mortalité maternelle dans les pays riches et dans les pays pauvres. Le président en a dit 2 mots aussi, je passerai rapidement là-dessus. Et je le disais, donc, il y a eu une poussée qui a été faite par le secrétaire général des Nations Unies pour pousser les gouvernements à prendre des engagements. Mais ça a été plus que cela aussi, et je pense que la santé maternelle et néonatale ou infantile a aussi montré une voie aux Nations Unies. Et en particulier, j'ai noté en bas sur cette diapositive, un certain nombre de structures ont été mises en place et celle-ci a été très importante et fait école pour d'autres programmes. C'est qu'on a mis en place des commissions indépendantes qui étaient en charge de regarder comment les engagements étaient tenus, les engagements des gouvernements, mais aussi les engagements des pays riches quand ils promettaient de l'argent. Est-ce que cet argent est vraiment arrivé et est-ce que cet argent a été utilisé à faire vraiment des progrès en matière de santé maternelle ou pour d'autres raisons, et les engagements des ONG internationales. Donc ça, c'est un groupe d'experts indépendants qui publie un rapport chaque année, et nous savons déjà que ce groupe va être repris pour les objectifs du développement durable, puisque déjà 9 membres ont été identifiés et il y a eu un communiqué du secrétaire général pour mettre en place cette commission, et je crois que c'est important. La France, là-dedans, eh bien, la France, allez, modestement, mais certainement, est encore présente, en tout cas dans les pays francophones. Et le président Sarkozy avait décidé, dans la ville de Muskoka, qui était un sommet du G8 en 2010 ou 2011, je crois que c'est 2010, de mettre 500 millions sur la table, en plus de ce que la France faisait déjà. Et je dois dire que ça a permis un certain nombre de progrès. Et ça a eu un effet intéressant, c'est qu'une série d'ONG françaises qui ne faisaient pas vraiment de la santé publique, de la santé maternelle en tout cas, jusqu'alors, se sont dit « tiens, il y a peut-être là des opportunités ». Et on a vu un espèce de mouvement. Et ce mouvement se traduit aujourd'hui par quelque chose en particulier qui s'appelle Expertise France, qui a un pôle santé qui est géré par Esther, le GIF Esther, donc qui était spécialisé dans le VIH et dans le twinning, dans le jumelage d'hôpitaux français avec des hôpitaux en particulier africains, mais pas seulement sur les questions de prise en charge du VIH, et que cette expertise française, ben, finalement, essaie de se réorganiser pour pouvoir répondre aux défis. La coopération française avait été détruite, donc on repart de pas grand-chose, mais il semble que ça soit en train de remonter, et j'espère franchement que la France va se donner les moyens de travailler dans ce domaine, et particulièrement dans la santé maternelle. Il semble que l'AFD, l'Agence française du développement, qui a été un des principaux bénéficiaires de ce fonds Muskoka, ait décidé de continuer le travail après 2016, puisque les fonds s'arrêtent en ce moment. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. La planification familiale. J'en parlerai pas beaucoup, mais quand même, c'est un élément qu'on ne peut certainement pas passer sous silence. On le sait très bien, ça a été dit depuis très très longtemps, une planification familiale efficace, c'est-à-dire un accès aux services de planification familiale pour toutes les femmes et pour toutes les familles qui veulent contrôler leur fécondité, a un impact de 30 à 40% sur la mortalité maternelle et néonatale, en tout cas maternelle. Donc c'est capital de prendre ça en compte. La question du planning familial, c'est une question de droit. Et c'est un droit qui est inscrit, c'est non seulement le droit à la santé, mais c'est le droit de prendre des décisions sur la taille de la famille que nous voulons. C'est évidemment avec le planning familial qu'on va réduire les grossesses non désirées, qui sont évidemment très très nombreuses, qu'on va réduire les avortements, et particulièrement les avortements clandestins, dans les pays où l'avortement n'est toujours pas légal. Et en particulier aussi, et ça c'est un problème plus spécifique de l'accès des adolescents et des jeunes à la planification familiale. Vous pouvez bien imaginer que pour des raisons culturelles, on en est loin dans beaucoup de pays, mais ça fait aussi débat dans les pays riches, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Est-ce que les adolescents ont le droit à l'éducation sexuelle dont ils ont besoin, et à l'accès à des professionnels et à la contraception lorsqu'ils décident d'en prendre une, et pas seulement la contraception d'urgence en cas de rapport non protégé. Qu'est-ce que je disais d'autre là-dessus ? Voilà. Alors si, dernier point, une commission internationale, là aussi, qui a fait un travail, je crois, très intéressant. Ils ont pris 13 marqueurs de médicaments et de contraceptifs, de médicaments de santé maternelle et néonatale et de contraceptifs, pour essayer de travailler médicament par médicament sur les différents problèmes qu'on rencontrait. Donc ça va de l'étude des marchés au calcul des prix, à essayer de négocier des prix qui soient des prix raisonnables pour les pays pauvres, et puis tout le problème de l'approvisionnement, de la rupture de stock, ceux qui travaillent sur le terrain savent très très bien de quoi je veux parler, et puis ensuite de l'utilisation des médicaments par les professionnels qui doivent être correctement formés pour le faire. Quand on pense que la première cause de mortalité maternelle, je le disais tout à l'heure, reste l'hémorragie du postpartum, et quand on sait que on a démontré qu'un médicament efficace donné au bon moment par un professionnel compétent réduit considérablement cette hémorragie de la délivrance, on ne peut pas ne pas s'occuper vraiment très très sérieusement de la question de l'approvisionnement. Les professionnels peuvent être très bien formés. S'ils sont dans des hôpitaux et des structures de santé où ils n'ont pas les moyens de travailler, évidemment, l'impact sera extrêmement faible. Donc cette commission a travaillé là-dessus. Je ne sais pas si cette commission sera renouvelée, mais en tout cas, elle a existé et elle a fait, je crois, un travail important. Et donc, nous passons de ces OMD aux ODD, en français, ouais, les objectifs du développement durable, pour 15 ans, 2016-2030. Et, comme je disais tout à l'heure, l'agenda non terminé des OMD a été repris. Alors, cette fois-ci, vous voyez que cette approche est beaucoup plus large que cela. Là, je montre simplement la philosophie. Et la philosophie, c'est de prendre en compte la population, les questions de développement économique, mais aussi les questions d'environnement et de développement environnemental, la question des partenariats et la question de la paix, puisque le président l'a très très bien dit, la plupart des pays qui ont encore des taux de mortalité matérielle extrêmement élevés sont en général des pays victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, mais tout ça est lié, puisque les conflits sont aussi liés à la pauvreté, et la pauvreté est liée, évidemment, à un développement économique inégal que nous connaissons sur cette planète, et au fait que les pays pauvres n'ont pas vraiment toujours tous les moyens de pouvoir s'exprimer au niveau mondial et de faire passer leurs besoins. Donc on est encore dans ce monde où les pays, où les pauvres n'ont pas la parole, et ça fait que, évidemment, au bout de la chaîne, la mortalité maternelle n'avance pas beaucoup. Donc ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que le développement des ODD a été fait de manière totalement différente. Je vous disais que les OMD étaient venus de manière verticale et s'imposaient un peu au monde. Là, au contraire, un processus de consultation qui a duré 3 ans a permis et largement aux pays de dire ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient le faire et quels étaient leurs objectifs. Alors évidemment, ça donne une approche holistique. Je crois que ça rend compte de la complexité du monde dans lequel nous vivons. On ne peut pas aborder, et là aussi pour la santé maternelle, nous le disions, ce n'est pas uniquement en travaillant en tant que gynéco dans un hôpital qu'on va résoudre le problème, mais on fait partie d'un développement beaucoup plus large que cela. Et c'est cela, cette approche holistique que les ODD sont en train de nous proposer, avec donc 17 objectifs et 169 cibles. Alors c'est énorme, mais en même temps ça a un intérêt, c'est que finalement, tous les points importants sont représentés et ça donne des arguments au gouvernement, aux citoyens de ces pays, mais aussi aux ONG, à nous et aux organisations internationales pour travailler vraiment très très bien sur toutes ces questions qui étaient autrefois en dehors des objectifs du développement. Donc voilà les 17 et vous voyez que là aussi, quand on parle de santé maternelle, eh bien, on va être intéressé non seulement par l'objectif numéro 3, bonne santé et bien-être, mais par d'autres. Je pense particulièrement au numéro 5, égalité entre les sexes, évidemment, qui est très, très important. Je ne parle pas du numéro 1. La pauvreté, on l'a déjà dit, joue un rôle extrêmement important dans la santé maternelle. Le 4, l'éducation, on l'a dit, sans éducation des femmes, des filles, on ne va pas avancer, le monde ne va pas avancer, pas seulement la santé de la reproduction, évidemment, etc. Mais vous voyez, inégalité réduite, tout ça, il y a des choses, on ne sait pas encore très très bien comment ça va être pris, mais il est certain qu'on voit là cette idée de prendre les choses dans leur complexité, mais aussi dans leur complémentarité. Et un des points très importants, c'est, en philosophie pour ces ODD, de travailler de manière transsectorielle, c'est-à-dire que la santé ne doit pas travailler toute seule, la santé doit travailler avec d'autres secteurs économiques, et au sein de la santé, les partages, les partenariats, les coalitions, évidemment, vont être favorisés. Un point très important, et c'est le dernier point qui est noté sur cette diapositive, c'est que ce sont les pays qui décideront en dernier recours de ce qu'ils veulent faire. Alors, pas être trop naïf, on sait très bien que les organisations internationales et que les pays riches ont évidemment quelques moyens de pression. Mais l'idée, en tout cas pour les Nations Unies, c'est de mettre les gouvernements au premier plan et de les faire décider de leurs objectifs, de leurs cibles et de leurs moyens d'y arriver avec l'appui. Mais il est demandé aux organisations, et GSF en fait partie, comme toutes les autres, de s'aligner sur les programmes nationaux, de ne pas venir faire son truc parce que nous, on sait, mais il faut travailler avec les nationaux, avec le ministère de la Santé, avec le ministère du Développement, etc., etc. L'objectif en matière de santé, vous voyez, il n'est pas seulement de réduire la mortalité, c'est-à-dire de s'attaquer à la survie. Il est beaucoup plus large. Et bien sûr, il fait écho aux besoins des pays riches, Il fait écho aux besoins de la bourgeoisie des pays pauvres, mais il fait aussi écho des besoins fondamentaux des populations des pays pauvres comme des pays riches. Et donc, il s'agit de travailler pour tous, et je crois que ça, c'est une nouveauté, en tout cas, c'est un point sur lequel on insiste, c'est que la mortalité maternelle a fait des progrès dans un certain nombre de pays, mais les inégalités, comme je l'ai crois un peu dit déjà, se creusent, c'est-à-dire que les pauvres n'ont pas forcément plus accès aux services, alors que les riches, de plus en plus, ont accès, en tout cas la classe moyenne naissante dans les pays pauvres, a accès à des services plus ou moins fonctionnels. Mais pour ça, il faut en général habiter les villes, pas habiter dans les bidonvilles. Il faut être éduqué, etc., etc. Donc, tous, en bonne santé, mais aussi de promouvoir le bien-être et à tout âge. Et la question de la vieillesse, enfin, ou des personnes âgées, je ne sais pas comment on dit en français, parce que, ben non, il ne faut plus rien dire, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais bon, moi, j'ai plus de 60 ans, donc forcément, je suis dans cela. À tout âge, ça veut dire, c'est les ados, les jeunes, et vous savez que dans les pays en développement, les grossesses peuvent démarrer à 12 à 13 ans, et la plupart des femmes qui atteignent 18 ont déjà au moins un enfant, donc ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, les personnes âgées, puisque, évidemment, la durée de vie est de plus en plus longue, pas encore vraiment dans les pays les plus pauvres. Alors, le but, ça a été dit, 70 pour 100 000 pour l'ensemble des pays. Mais pas plus de 140, c'est-à-dire le double, pour les pays qui ont aujourd'hui un ratio de mortalité maternelle supérieur ou égal à 400. Parce qu'il faut être un peu réaliste et demander à ce qu'un pays comme le Tchad, qui a un ratio de mortalité maternelle aux environs 900 pour 100 000, arrive à 70 dans 15 ans, c'est totalement stupide. Déjà, s'il arrivait à 400 ou s'il arrivait à réduire, ça serait extrêmement bien. Et s'il arrive à 140, alors là, je crois qu'on va être vraiment extrêmement content. Je pense que ça va être difficile. Pour atteindre des taux pareils, il faut que la diminution du ratio de mortalité maternelle annuelle soit multipliée par 2 ou par 3. Il a été dit tout à l'heure que le ratio de mortalité maternelle diminuait de 1%, quelquefois 2%. Les pays qui ont atteint les objectifs du millénaire, en général, ils étaient autour de 2,5% de diminution annuelle de leur ratio de mortalité maternelle. Là, il faut passer au moins à 2,5% pour tout le monde, si ce n'est plus. Donc, c'est le défi que nous avons. Mais je crois que l'ambition est là. Et je crois que sans ambition, on n'avance pas. Donc, on n'a pas été très bon, mais on a quand même fait des progrès pour les OMD. Et j'espère qu'on va pouvoir maintenant définir des stratégies avec des gouvernements décidés à avancer qui vont nous permettre de faire des progrès substantiels. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Tu t'es assis là pour me dire que... Voilà, OK. Alors, moi, je m'arrête et puis on discutera. Pardon ? 5 minutes ? Voilà, quelle richesse, OK. Extraordinaire. Alors, pour vous dire que la stratégie du secrétaire général sur tous les enfants et toutes les femmes et tous les enfants s'est élargie. Et c'est maintenant toutes les femmes, tous les enfants, tous les adolescents, partout. Et certains ont beaucoup insisté sur le fait que ces stratégies devaient aussi se mettre en œuvre dans les pays les plus fragiles, lors de crises humanitaires, etc., etc. Donc c'est ça, la nouvelle philosophie. Je passe. J'avais quelques sites sur lesquels on trouve les informations. Les stratégies. Alors je passe parce que ça, GSF le connaît bien, mais c'est que si on veut faire le travail sérieusement, il faut le faire sérieusement. Donc il faut commencer par analyser les besoins. L'analyse des besoins, elle se fait avec les populations. Il faut savoir ensuite faire des priorités, et c'est difficile, mais les budgets nous l'imposent, et malgré les meilleures volontés du monde, les budgets sont ce qu'ils sont. Et puis ensuite, il faut planifier, et ensuite, il faut surveiller, monitorer. Et il y a ici quelques collègues qui en connaissent mieux, beaucoup plus que moi sur la question, donc je n'en parlerai pas trop. Et il faut faire de la recherche, parce que sans recherche, sans mesurer, sans réfléchir, sans analyser, eh bien, il y a peu de chances qu'on atteigne les objectifs. On va atteindre certainement quelques objectifs. On va atteindre d'autres objectifs, mais pas forcément ceux que nous voulons. Et j'insiste sur la recherche pluridisciplinaire. Les sciences sociales ne sont pas assez représentées aujourd'hui. L'anthropologie, la sociologie, etc. sont pour nous des besoins énormes quand on parle de recherche et de recherche opérationnelle. Alors, ça, ça devient plus technique, mais je voulais simplement, quand on parle de santé maternelle, noter tous les points sur lesquels on doit travailler et on ne peut pas les négliger. Évidemment, l'éducation et la formation des personnels de santé, et je suis sûr que Françoise va en parler, donc je ne dis rien. Les services de soins, leur qualité, leur performance, etc., c'est un long débat. Les approches à base communautaire, totalement négligées, c'est encore extrêmement confidentiel, mais il faut vraiment maintenant se poser cette question si on veut travailler sur les exclus, sur les marginaux du système. Les mécanismes d'approvisionnement, je ne reviens pas dessus. La supervision qui manque. Il y a 20 ans, tout le monde parlait de supervision. Il y avait un papier publié tous les 5 jours sur la question. Ça a totalement disparu. Les pays n'ont pas de mécanisme de supervision. Les districts sont gérés de manière ad hoc en fonction de ce qui arrive et de ce qui n'arrive pas. Et il faut qu'on passe à autre chose. La surveillance des décès maternels, moi j'aimerais bien qu'on en dise un mot, mais peut-être on n'a pas le temps et peut-être, je ne sais pas si Marie-Hélène en parlera, mais pour moi c'est une stratégie innovante qui devrait à la fois permettre de mobiliser les politiques parce que quand les présidents et quand les premiers ministres vont avoir devant eux, chaque mois, l'état exact des décès maternels, de leur localisation, de leur évitabilité et des mesures qui ont été prises pour les éliminer, on aura peut-être fait un progrès parce qu'ils ne pourront pas ignorer ce fait. Pour l'instant, nous sommes dans des estimations de mortalité maternelle. Alors, tout le monde en parle, mais ce n'est pas très concret. Si le gouvernement a devant lui le fait qu'il y a 3 femmes qui sont décédées là pour 7 raisons qu'on pensait avoir résolues, mais qui n'est pas résolue, etc., etc., et que quand on a des décès maternels, on sait que la morbidité est 10 à 20 fois supérieure à cela, la morbidité néonatale, mais aussi la morbidité des femmes, avec des conséquences quelquefois qui durent toute l'existence, je crois qu'on peut faire ça. Deuxièmement, on peut mobiliser les populations. Quand on fait des autopsies verbales dans un village, on peut discuter avec le village de comment ce village peut se mobiliser pour faire que les femmes ne meurent plus dans ce village. Il y a des mesures extrêmement simples à faire, mais il y a surtout un changement d'état d'esprit de considérer que la mortalité maternelle peut s'éviter, à condition qu'on s'en occupe. Et puis, on peut mobiliser les médias, parce que les médias sont friands de ces faits-là, et il est possible, avec donc des données réelles en population et calculées régulièrement en communauté comme dans les services de santé, de réellement faire changer la perspective sur la santé maternelle. C'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne. Mais il ne faut pas oublier les questions de violence basées sur le genre, pas seulement parce qu'elles sont responsables d'une proportion difficile à mesurer, mais certaines de mortalité maternelle, mais parce que c'est une question de genre et que nous sommes en plein dans les questions de genre. Et puis les questions de mutilation génitale, les questions de mariage forcé, puisqu'on parle des adolescents, évidemment, ça fait partie du problème. Et des stratégies, maintenant, sont en place pour les mariages forcés dans tous les pays. On était, Jacques et moi, au Tchad il n'y a pas très longtemps. Le président a signé fin 2015 une nouvelle loi pour le mariage à 18 ans des filles et des garçons, ce qui n'existait pas. Maintenant, toute la question, c'est de mettre cette loi en action. Et ça, c'est un autre sujet. Mais il fallait bien qu'il y ait une loi pour pouvoir avancer. Un point sur là, et puis j'arrête. Promis. Parce que c'est une bonne nouvelle, et je veux vous le dire, c'est que depuis 2 ans, on travaille sur un nouveau mécanisme de financement de la santé, mais particulièrement de la santé maternelle et de la santé infantile. Donc la Banque mondiale a pris l'initiative, a été immédiatement soutenue par le Canada, par la Norvège, par les USA. La France n'est pas là, mais bon, j'espère que la France aura sa façon individuelle, particulière, remarquable d'avancer dans le concert des nations. Et ce mécanisme de financement est un mécanisme qui réellement va mettre à l'échelle les financements pour la santé maternelle, puisque comme on l'a dit, et on l'a dit pour la planification familiale tout à l'heure, les questions de VIH et d'autres questions de santé passent en priorité, et donc la santé maternelle est toujours sous-financée. Donc là, on a un mécanisme nouveau. Je voudrais terminer sur un point, c'est celui-là. Voilà, maintenant je termine. Parce que le président Hollande a décidé de répondre à la sollicitation des Nations Unies et a pris la présidence avec le président Zuma d'Afrique du Sud d'une commission de haut niveau sur les professionnels de santé. Alors, une commission est en train de se mettre en place avec une vingtaine de membres éminents choisis dans le monde entier pour travailler sur cette question essentielle. Et je n'ai pas parlé des sages-femmes, et croyez-moi, c'est difficile pour moi de me retenir, mais je sais qu'on va en parler maintenant. Mais je voulais quand même noter ça, puis ça fait une bonne transition. On attend un rapport de cette commission internationale pour le mois de juin. Et je crois qu'on peut tous se féliciter que la question de la formation, du recrutement, du déploiement, de la supervision, de la formation continue des professionnels de santé devienne un point prioritaire dans l'agenda international. Je crois que j'ai fini. Merci.